le temps du message. Et c'est Marie Asper qui va nous transmettre la parole. Et j'aimerais prier pour elle. Oui, Seigneur Jésus, je te demande d'être la langue de Marie, afin qu'elle puisse transmettre ton enseignement. Et Seigneur, j'aimerais te remettre nos cœurs, nos pensées, nos intelligences, pour que nous soyons totalement libres pour recevoir cette parole. Amen.
Bonjour tout le monde. Premier dimanche des vacances, alors je vous invite à un petit voyage en Grèce, en fait en Asie mineure, où nous allons retrouver Paul. Mais Paul, qui donne des cours dans une école, va nous parler en fait, dans le message qui est là, va nous parler de sa stratégie missionnaire. Alors, première question évidemment, c'est quoi un missionnaire? Je pense qu'on a des idées parfois très préconçues et peu correctes. Alors je m'excuse auprès de vous de cette caricature, même s'il y a des choses vraies dedans. La Bible, en fait, ne nous donne pas cette notion-là de la mission. Prenons d'abord les mots à la racine. Mission, missio, en latin, ça veut dire l'action d'envoyer. Donc, missionnaire, c'est l'envoyé, et la mission, c'est la tâche pour laquelle il est envoyé, la tâche dont il est chargé. Mais en grec, apostolos veut aussi dire envoyé. Les apôtres, qui sont les disciples les plus proches de Jésus, qu'il a envoyés pour annoncer l'évangile ou la bonne nouvelle du salut dans le Christ. Seulement Jésus lui-même est aussi un envoyé. Il a été envoyé par Dieu pour annoncer aux hommes que le règne de Dieu s'est approché. Quelque part, il est aussi un missionnaire, même si lui a accompli sa tâche parfaitement et si elle était unique. Au moment de monter au ciel vers le Père, Jésus transmet sa mission aux disciples présents et il les envoie à son tour. Vous connaissez ces versets. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et apprenez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Et il précise aussi, d'après Luc, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Lorsque nous lisons et entendons ces paroles aujourd'hui, nous sommes concernés, car nous sommes ses disciples actuels, nous sommes ses envoyés. Nous sommes donc des missionnaires, au moins en puissance. Et l'Ancien Testament est lui aussi rempli d'hommes qui ont été envoyés par Dieu. Il y a eu Abraham et Moïse et tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Ils sont des envoyés, des missionnaires. Puis il y a eu Jésus et les apôtres, les disciples, tous missionnaires. Et ainsi quelqu'un a pu dire que la Bible est un livre qui a pour origine un Dieu missionnaire et qui est écrit par des missionnaires dans une intention missionnaire. Voyons maintenant le passage d'aujourd'hui. Je l'ai mis dans une version classique qui est très ramassée. Mais pour ma part, je l'ai travaillé avec une version un peu plus développée, ce qu'on appelle les équivalences dynamiques en français d'aujourd'hui. Dans le premier verset que j'ai retenu, qui est le même dans les deux versions, Paul présente son ordre de marche. N'est-ce pas? Annoncer l'Évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Puis il définit sa méthode et son objectif, et il le fera de manière répétée. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. À ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, les chrétiens faibles, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. Là, c'est vraiment le principe de base de Paul. Je me fais tout à tous. Nous y reviendrons. Or, tout cela, conclut-il, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux, ceux qui l'ont converti, aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Prenons point par point ce discours. On peut imaginer qu'on est vraiment à l'école de Paul, qu'on a pris une machine à remonter le temps, qu'on est en l'an 55, à Éphèse, assis dans son école et qu'on l'écoute parler. Avec les Corinthiens qui viennent d'arriver et qui lui posent toutes sortes de questions. Et nous, on en arrive au milieu de la discussion où Paul indique son comportement qui avait été mal interprété et en fait nous révèle tout son comportement de missionnaire. Sa mission, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile. On sait qu'il l'a dit dans toutes ses lettres. Mais il nous dit autre chose, il dit une obligation qui m'est imposée. Non, ce n'est pas Jésus qui l'y oblige. Jésus nous oblige à ne rien faire. Mais c'est Paul lui-même. Après sa rencontre fulgurante avec le Christ sur le chemin de Damas, il a été tellement bouleversé, tellement renversé, qu'il a décidé d'y consacrer la fin de sa vie. Donc c'est sa vocation, c'est sa conscience qui le pousse à faire ça. Et s'il ne le fait pas, malheur à moi, dit-il, il sombrerait dans le désespoir. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Un ordre de marche, mais par amour pour le Seigneur. Et on peut se demander, est-ce que nous avons aussi entendu cet appel? Est-ce qu'il nous fait peut-être peur? Peur parce qu'il risque de chambouler nos existences, comme il a chamboulé celle de Paul. Dans les deux versets suivants que je n'ai pas mis, Paul explique qu'il a prêché l'Évangile gratuitement auprès des Corinthiens et qu'il y tient. Il ne l'a pas fait pour de l'argent. Puis, il explique sa stratégie missionnaire qui commence en disant « Moi qui étais libre, un homme libre, je me suis fait l'esclave de tous. » Il faut se souvenir que Paul n'est pas n'importe qui. Paul, tout d'abord, a été élevé dans une riche famille juive qui a émigré à Tarse, qui a obtenu, c'est un immense privilège, la citoyenneté romaine. Donc il est doublement privilégié. Il a eu certainement une très bonne éducation dans son enfance des précepteurs grecs. Puis ensuite, il a été envoyé à Jérusalem. Et là, il a eu comme maître l'un des meilleurs pharisiens, l'un des meilleurs maîtres de la loi, Gamaliel. Et il est devenu lui aussi un spécialiste de la loi. C'est ce qu'on pourrait appeler un jeune homme très prometteur, ouvert à une brillante carrière. Eh bien, cet homme-là, non seulement libre socialement, mais brillant, il va faire exactement ce que son maître avait fait avant lui. Vous vous rappelez les paroles de Jésus? Pardon, c'est trop vite. Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et encore, eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Tout au long de sa vie, Jésus l'a fait gratuitement, il l'a fait généreusement, il a servi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Dans quel but? Eh bien, pour gagner l'autre sans le détruire, pour le convertir. Et c'est ce que Paul fera aussi. Son objectif, c'est de gagner des gens à Jésus, de les amener au Christ et à Dieu. Et il le fait en servant, parce qu'il a compris, comme Jésus, que si on veut gagner le cœur des hommes, si on veut gagner leur écoute, il n'y a qu'une seule manière, c'est de s'intéresser à eux, d'écouter leurs besoins, de répondre à leurs questions spirituelles, de prendre soin d'eux en s'oubliant soi-même et en attendant ni remerciement ni salaire. C'est ça le travail d'un esclave. C'est de servir sans remerciement, sans salaire. Et ces conditions d'écouter les besoins, de prendre soin, me semblent être les conditions préalables et nécessaires à la bonne communication du message de Dieu. Et si elles ne sont pas respectées, on risque de parler dans le vide. Après avoir donné 3 exemples de la chose, nous y reviendrons après en compagnie de Luc, Paul, au verset 22b, donne le principe de base qui est donc central, et c'est pourquoi c'est le titre du message d'aujourd'hui. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. C'était certainement tout à fait clair pour vous, pour moi pas trop. Alors j'ai essayé de comprendre et je me suis inspiré d'autres versions de la Bible, ces versions en français courant. Et là, me semble-t-il, c'est clair. Je me suis fait à tous, c'est-à-dire je me suis adapté en tout à tous les différents peuples auxquels j'ai parlé, afin de conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens possibles. Paul nous préconise donc de nous adapter autant que faire se peut, et tant que nous ne sombrons pas, bien sûr, dans le péché, de nous adapter aux coutumes et aux habitudes des gens que nous voulons évangéliser. Il faut adopter leur comportement extérieur, apprendre leur langue. C'est une question de respect et aussi d'efficacité pour transmettre la parole. Le missionnaire doit donc s'intégrer à son public cible. Il ne doit pas jouer au monsieur qui sait tout et pas non plus rester à l'extérieur comme s'il était un touriste de passage. Il faut vraiment s'intégrer, connaître les gens, parce que c'est la seule manière d'ouvrir leur cœur et donc d'ouvrir aussi leurs oreilles et de les préparer à recevoir le message. Paul y était prêt. Il avait une éducation biculturelle, à la fois juive et grecque. Mais quelque part, Jésus aussi s'est intégré. Il est venu dans un peuple donné, le peuple juif, à un moment donné de son histoire. Il a parlé dans une langue donnée avec des mots qui étaient les mots de ses contemporains. Et il me semble que cette intégration demande une sérieuse préparation et des efforts sur le terrain, dans le champ missionnaire. Elle demande également du temps, parce qu'il faut nouer des relations. On ne peut pas juste balancer le message à des gens qu'on ne connaît pas. Et nous avons parfois tendance à l'oublier. Alors il faut observer les gens et chercher peut-être à l'avance des points de contact entre nos deux cultures, des passerelles spirituelles qui permettront la bonne transmission, la bonne compréhension du message. Et Paul nous donne ici trois exemples, et j'en ajouterai un quatrième, parce qu'il se trouve que nous avons non seulement le discours de Paul, mais nous avons aussi sa mise en œuvre. Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, 14 et 15, et 17, Luc nous montre Paul à l'œuvre, et c'est extrêmement instructif. Premier public, donc, les Juifs émigrés, comme Paul, ceux d'Antioche, de Pisidie, et ceux de Bérée. Toutes ces villes se trouvent en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Les Juifs se distinguent de tous les autres peuples parce qu'ils obéissent à la loi transmise par Moïse. Paul, évidemment, connaît la loi sur le bout des doigts. Il l'a apprise, il l'a pratiquée. Il aurait été un brillant pharisien s'il n'avait pas rencontré le Christ. Donc, il sait comment se comporter avec les Juifs pour ne pas les choquer dans son comportement, je le répète. Et il sait obéir à la loi de Moïse. Mais il le fait, attention, toujours pour le bien de son prochain et pas comme une manière de se vanter ou pas de manière répressive comme les pharisiens avaient tendance à le faire. Il ne le fait surtout pas pour gagner son salut. Il sait très bien que seule la grâce de Dieu donne le salut. Mais il veut capter leur intérêt. Et à Antioche et à Bérée, ça marche très bien. Et c'est instructif de le suivre. Que fait Paul? Il arrive dans la ville. Il arrive dans la synagogue qui est l'endroit où on fait l'étude biblique, hein, le club local. Il s'assied en silence, il écoute pendant qu'on lit la parole, la loi et les prophètes. Et puis la coutume voulait qu'après ça, le chef de la synagogue s'adresse à lui et lui demande « Voulez-vous dire quelques mots, un commentaire ?» On avait vu que c'était ce qui s'était passé avec Jésus à Nazareth aussi. Alors, c'est à ce moment-là seulement que Paul se lève et dans le silence attentif commence à parler. Comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il va faire un long discours où il reprend toute l'histoire du peuple d'Israël pour montrer comment on en arrive au Sauveur, et il annonce que ce Sauveur, c'est Jésus, le Messie, qu'il est venu, qu'il a été condamné, crucifié, qu'il est mort, mais ressuscité. Et donc, il apporte ainsi ce que tous les Juifs attendaient, le pardon des péchés. Et les gens sont fascinés par ce qu'il raconte, ça leur parle au cœur, ils l'écoutent et le prient de revenir. Les dimanches suivants, enfin les samedis suivants. Il y aura des problèmes par la suite parce qu'il y aura de la jalousie. Mais on peut dire que dans ce premier cas, Paul a fait tout juste sur toute la ligne et qu'il a gagné beaucoup de cœur par son comportement approprié. Il a répondu aux questions spirituelles de son public. Il leur a raconté ce qu'il cherchait. Dans le deuxième public dont il parle, donc Paul parlait des sans-loi, où il, en fait, ce qu'il veut dire par là, il faudrait mettre un L majuscule à loi, pour les Juifs et pour Paul, les sans-loi, c'est les gens qui ne suivent pas la loi de Moïse. Ce n'est pas des gens anarchistes, ce n'est pas des gens immoraux qui font ce qu'ils veulent. Et il le dit très bien, parce qu'il sait que dans l'assemblée, il y a des Corinthiens qui, eux, ont compris ça, qu'on peut maintenant vivre comme on le souhaite. Et Paul dit non, moi je suis la loi de Dieu, la morale qu'il a mise dans ma conscience. Et surtout, je suis la loi du Christ, je suis lié par le Christ. Mais il parle. Et nous voyons Luc dans deux exemples qui nous montrent Paul à l'œuvre. Deux exemples très différents, mais des publics qui peuvent nous toucher. Le premier cas, c'est à l'Istre, un bourg rural. Les gens parlent le lycaonien, semble-t-il un dialogue, une langue qui n'a rien à faire avec le grec. C'est des gens simples. Paul arrive là-bas, premier acte, une guérison. Quelqu'un qui était infirme, paralysé, Paul le guérit. Et les gens interprètent mal l'acte de Paul, parce que Paul n'a pas pu l'expliquer. Sans doute que lui ne parle que grec, et eux, que leur dialecte. Alors les gens le prennent pour un dieu, et veulent lui faire un sacrifice. On amène les taureaux avec des fleurs, etc. Paul est horrifié, et leur dit, mais non, vous vous trompez. Et là, il fait quelque chose de très bien. Il va annoncer le message, même si la circonstance est très délicate et mauvaise, mais il va le faire en partant, non pas de la crucifixion, mais de ce qu'on appelle une révélation générale de Dieu, la création. Et il va leur dire, amis, abandonnez ces idoles inutiles et suivez le Dieu vivant. C'est lui qui a créé. Comme vous le savez, le ciel, la terre, la mer, c'est lui qui est votre bienfaiteur. Alors, à première vue, les gens ne comprennent pas trop, mais quand même un peu, l'affaire tournera au vinaigre parce que des Juifs venus d'Antioche, des ennemis, des adversaires de Paul, viendront et Paul se fera lapider. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a eu d'abord le geste de compassion, même s'il a été mal interprété, donc ce geste de guérison, et ensuite, il est entré dans le message et par un appel à la conversion basé sur la révélation de la création. Autre cas particulier, c'est à Athènes. Alors là, le public est totalement différent. C'est les intellos, c'est les gens qui se piquent de culture, c'est les gens qui aiment discuter sur la place publique. Paul les connaît, il a été élevé parmi eux. Donc lui aussi va dans les places publiques et se met à débattre avec les philosophes, et puis on peut l'imaginer avec un petit cercle de gens autour. Puis les badauds disent, mais c'est quoi ça? De quoi il nous parle? Il nous parle d'un Dieu étranger. Hein? Et il n'aime pas ça. Et je pense que c'est un peu ce qui arrive parfois quand des missionnaires viennent parler de Dieu dans des pays très lointains. Il y a cette réaction parfois de dire, mais le Dieu dont on nous parle, ce Jésus, c'est un Dieu étranger, on n'en veut pas. Alors Paul cherche et trouve un meilleur point de contact. Et par chance, dans cette ville qui ressemble beaucoup aux nôtres, qui a plein de temples, plein d'idoles, où on discute de toutes les religions, etc., il trouve l'autel à un dieu inconnu. Et au même moment, il est invité au café philosophique du coin, l'Aréopage, où on lui dit, eh bien, expose tes théories. Et il va le faire. Il part de ce point de contact culturel à un Dieu inconnu. Il l'utilise comme passerelle. Il va aussi parler de la création, mais d'une manière logique, rationnelle et philosophique, au début, comme introduction. Et puis, quand même, à un moment donné, il se met à parler de résurrection et de jugement final. Et là, une bonne partie de son auditoire décroche. Est-ce que c'est Paul qui a avancé ça trop vite? Ou est-ce que c'est son auditoire qui n'était pas prêt à se poser des questions vraiment spirituelles? Peut-être qu'il voulait juste jouer avec les mots, les Grecs, jouer avec les idées, mais il ne se posait pas vraiment la question de la fin dernière des hommes. Et donc, ce message ne répondait pas à leurs attentes, en tout cas pas de la majorité des gens. Alors on renvoie Paul en disant « Oui, oui, d'accord, on en parlera une autre fois. » Mais il a quand même eu quelques personnes qui l'ont suivi. Le dernier public dont Paul nous parle est assez inattendu, parce que nous, quand on pense missionnaire, on pense qu'il s'agit de païens qu'il faut convertir. Et puis ensuite, vlac, c'est l'affaire de l'Église. Nous, les missionnaires, on s'en lave les mains. Mais non, les deux sont liés. Missionnaire, évangéliste, c'est lié, c'est la même chose, la Bible ne fait pas la différence. Alors Paul parle là de faibles, et il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Je pense que le plus pertinent, c'est ces traductions qui disent qu'il s'agit de jeunes chrétiens, non pas jeunes en année, mais en année de conversion, comme les Corinthiens, ça faisait 2-3 ans à peine qu'ils étaient convertis. Et certains étaient encore fragiles dans leur foi. Ils vivaient dans le monde grec, ils se posaient des questions. Ils se disaient, mais est-ce que je dois tout balancer, toute ma culture, me couper de tout mon monde pour suivre le Christ? Par exemple, est-ce que je peux manger de la viande? Ce n'est pas qu'ils se demandaient s'il fallait ou non être végétarien, mais la viande, même vendue au marché, c'était toujours de la viande sacrifiée aux idoles. Et Paul a dû leur expliquer certaines choses à ce propos juste avant notre arrivée, ou si vous préférez, dans le chapitre précédent, le chapitre 8. Alors, comment répond Paul? Il dit, je me fais à ces faibles, je vis comme eux, j'accepte leurs scrupules, je ne les partage pas. Je sais que cette viande, c'est juste de la viande. Mais, et il donne ce conseil aux gens forts, qui se disent forts dans la foi, attention à votre manière de vous comporter. Si votre comportement est mal interprété et qu'il fait retomber en arrière ces faibles chrétiens, s'il les fait buter, alors vous devez renoncer à ce comportement pour ne pas leur faire du mal, pour ne pas les faire retomber dans l'idolâtrie. Là encore, Paul montre de la compassion. Il se met au niveau de ces gens faibles. Et d'ailleurs, ça va être la tâche sans doute de l'Église, mais d'amener peu à peu ces chrétiens d'une autre culture à trier les éléments de leur culture. Qu'est-ce que je peux garder? Pensez au rite du mariage, au rite de la naissance. Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je dois balancer parce que c'est vraiment idolâtre? Qu'est-ce que je peux modifier sans modifier le message, mais pour l'adapter à ma culture? Il y a parfois un beau mot, on parle d'indigénisation, mais l'Église s'adapte, pas le message, mais l'Église s'adapte à la culture ambiante. En conclusion de son message, Paul, là juste pour vous montrer, il n'y a pas du même, mais vous voyez Tarse, vous voyez Lystre, vous voyez Antioche en dessous de la Phrygie et vous voyez Éphèse. On ne voit pas Corinthe, c'est juste à gauche de l'écran. En conclusion, Paul explique quelque chose qui a aussi fait tiquer certaines personnes. Il explique qu'il a une récompense. Alors on ne comprend plus parce qu'il vient de dire qu'il l'a fait gratuitement. Alors est-ce qu'il veut se faire payer? Ou bien est-ce qu'il croit qu'il doit évangéliser pour obtenir son salut? Ce serait complètement contradictoire avec le message. Non. Mais ce qu'il veut expliquer, et là je vous ai mis deux versions, qui sont deux bonnes versions. Elles sont véridiques les deux, mais dites de manière un peu différente. Celle de la Tob, très concise, avoir part à quoi? La Bible du Semeur explique avoir part aux bénédictions de l'Évangile, mais avec eux. Donc la satisfaction, la joie de Paul, de tout missionnaire, de tout évangéliste, c'est de voir des gens convertis. Et nous savons que Paul avait un immense attachement pour ces gens d'Éphèse, de Corinthe et d'ailleurs, qu'il avait conduits au salut. Pour lui, c'était comme des enfants. Et c'est ça, sa satisfaction et sa récompense. Je peux partager avec d'autres cette extraordinaire nouvelle. Je peux la communiquer à d'autres et nous serons ensemble au bénéfice des promesses du royaume. En conclusion, il faut se préparer à la mission. Paul n'a pas eu du succès chaque fois sur toute la ligne. À Lystre, à Athènes, le succès est très relatif. On peut même avoir l'impression au début que c'est un échec. Et il y a des choses à apprendre pour nous de ça. Même le super Paul se plante parfois. Alors pourquoi nous on aurait peur de se planter ? C'est une magnifique responsabilité de transmettre l'Évangile, mais je pense qu'il faut s'y préparer. Tout d'abord, trouver quel public cible j'ai dans le cœur, quel public cible l'Esprit me donne dans le cœur. Ça peut être mes voisins, ça peut être un quartier de ma ville, ça peut être la Mongolie ou ça peut être le Tchad. Mais c'est un public déterminé. Et ensuite, il faut s'y préparer, apprendre la langue. À Lystre, Paul ne parlait que grec et les gens parlaient l'icaon. Comment est-ce qu'on peut communiquer si on ne parle pas la langue ? Même avec nos ados, c'est trop ! Vous savez ce que ça veut dire ? Il faudra que j'apprenne. Hein ? Tout le monde a un autre langage. Et si on parle le langage de l'autre, il y a une familiarité qui s'établit. Et on peut alors transmettre. Il faut aussi apprendre les éléments de la culture. Quelles sont les habitudes des gens ? Leur mode de vie et de pensée. Quelles sont leurs croyances spirituelles? Par exemple, est-ce qu'ils croient à un Dieu unique? Qu'est-ce qu'ils pensent de la création? L'autre jour, Jean Villard nous avait parlé de cette tribu de Nouvelle-Guinée qui avait pris complètement à l'envers le message de l'Évangile parce que pour eux, le héros dans leur culture, c'était le traître qui arrivait à capter l'attention des gens pour ensuite les tuer. Ben, ce n'est pas tellement dans nos mœurs. Mais Richardson l'avait compris et avait trouvé dans leur coutume l'enfant de paix, le don d'un enfant qui réparait les gens. Et il avait assimilé Jésus à l'enfant de paix. C'est ce que j'appelle une passerelle spirituelle. Et on en trouve à condition de réfléchir. Et puis on peut trouver la porte d'entrée pour en communiquer le message. Paul, par exemple, à Lystre comme à Athènes, il n'a pas immédiatement commencé par la résurrection, la crucifixion et la résurrection, même si c'est central. Il a commencé par la création. On peut commencer aussi par l'amour de Jésus, ou on peut commencer par le Père Tout-Puissant. Où on peut commencer par l'esprit qui guérit. Il y a beaucoup de portes d'entrée au message. On peut prendre la bonne. Et ensuite, évidemment, donner le message sans l'édulcorer, comme Paul l'a fait à Athènes. Finalement, je dirais que la ténacité de Paul doit nous encourager. Je crois que c'était dans le guide d'hier, où il faisait la liste de tout ce qu'il avait subi, je ne sais pas combien de fois, de flagellation, de lapidation, etc. Ça, c'est vraiment un cas extrême. Mais il a tenu le coup. Et je crois qu'on peut faire nôtre son exhortation à Timothée. Proclame la parole. Insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Ta mission. Et c'est ainsi que nous porterons du fruit. Amen.